Et le journal vous est présenté par Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. À Paris, l'adjoint à la culture Christophe Girard démissionne. Il était l'objet d'une polémique autour de soupçons de soutien à l'écrivain Gabriel Matzneff, accusé de viol sur mineur. Des élus écologistes notamment demandaient à ce qu'il quitte ses fonctions. Dossier complet à suivre dans ce journal.
Mike Pompeo durcit donc le ton contre la Chine. Le secrétaire d'État américain compare le régime chinois à Frankenstein. Déclaration qui intervient après l'annonce surprise de Washington sommant la Chine de fermer son consulat à Houston. Précision à suivre dans cette édition signée Loïc Loury.
Et puis nous évoquerons également un vestige historique d'une église byzantine du 6e siècle qui est un nouveau sujet de conflit entre Israéliens et Palestiniens. Nous entendrons le reportage sur place de notre correspondante Alice Froussard. Démission surprise hier donc de Christophe Girard. Il quitte son poste d'adjoint à la culture à la mairie de Paris. L'élu de 64 ans avait déjà été auparavant adjoint de l'ancien maire Bertrand Delanoë. Il était notamment l'initiateur des Nuits Blanches et depuis plusieurs jours des élus écologistes, entre autres, demandaient son départ. En cause, son soutien suspecté à Gabriel Matzneff. Christophe Girard a été entendu en mars dernier dans l'enquête pour viol sur mineur qui vise l'écrivain. Et hier, Benoît Grossin, quelques manifestants étaient réunis sous les fenêtres de l'hôtel de ville pour exiger justement cette démission qu'ils ont donc obtenue.
La manifestation devant l'hôtel de ville, alors que se déroulait le premier conseil municipal d'Anne Hidalgo depuis sa réélection, aurait-elle eu raison du roi de la culture dans la capitale ? Christophe Girard, l'initiateur des Nuits Blanches et d'autres projets d'envergure depuis 2001, depuis qu'il est conseiller de Paris, l'a fait savoir par communiqué, en affirmant n'avoir nullement envie de se pourrir la vie plus longtemps et de s'emmerder à se justifier en permanence, je cite encore, pour quelque chose qui n'existe pas. Et en parlant de climat délétère général, de droit et de code pénal piétiné, Christophe Girard assure que la première de ses priorités est de ne pas gêner la sérénité d'Anne Hidalgo dans l'exercice de son deuxième mandat. Anne Hidalgo prend acte de sa démission et salue une décision qu'elle qualifie de courageuse après lui avoir pourtant bien réaffirmé son soutien hier matin dans les colonnes du Parisien. Ce soutien pouvait-il tenir plus longtemps, à l'heure où des liens dans les milieux culturels et politiques ne sont plus acceptés ? Christophe Girard, entendu en mars dernier dans le cadre de l'enquête pour viol sur mineur visant Gabriel Matzneff, a été au milieu des années 80 secrétaire général de la maison Yves Saint-Laurent qui avait alors apporté une aide financière à l'écrivain. Christophe Girard a-t-il utilisé son statut d'adjoint à la culture en faveur de Gabriel Matzneff ? Le groupe écologiste réclame une enquête de l'inspection générale de la mairie de Paris.
Alors s'il démissionne de son poste d'adjoint à la culture, Christophe Girard reste cependant conseiller de Paris, mais c'est tout de même une victoire pour Raphaël Rémy-Leleu. Elle est ancienne porte-parole d'Oser le féminisme et elle est devenue élue écologiste à la mairie de Paris. On l'écoute.
Pour nous, c'était la seule décision possible. Christophe Girard adjoint à la culture auprès de la maire de Paris, ça n'était pas tenable. Ça n'avait aucun sens par rapport au moment aussi politique que nous sommes en train de vivre. Parce que nous sommes en 2020, nous sommes dans une période où le niveau de féminisme dans la société a augmenté, le niveau d'écoute de la parole des femmes et des enfants victimes de violences sexistes et sexuelles est enfin à peu près correct. On a mis beaucoup de temps à briser les omertas, à faire en sorte de dire que les agresseurs n'avaient pas leur place en politique. Et là, on est sur une chose encore plus générale, encore plus globale, à savoir s'attaquer au rouage du système, à toutes les petites acceptations qui ont créé une culture de l'impunité. Et donc c'est un premier pas très important, je pense que c'est un jour historique du point de vue de la conquête féministe et de l'exemplarité politique.
Propos recueillis au micro de Rosalie Lafarge. Dans un tweet hier soir, la maire de Paris, Anne Hidalgo, s'est dite écœurée. Elle dénonce une situation où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons, et elle renouvelle son soutien à son amie. Un soldat français a été tué hier au Mali lors d'un combat avec des groupes armés. Son engin a sauté au contact d'un véhicule suicide chargé d'explosifs, selon le ministère de la Défense. Dans un communiqué de l'Élysée, le président de la République dit s'incliner avec un profond respect devant le sacrifice de ce militaire mort dans l'accomplissement de sa mission au service de la France. Deux autres militaires ont hier été blessés. Au Mali toujours, cinq chefs d'État africains sont venus hier pour tenter de trouver une solution à la crise sociopolitique qui secoue le pays depuis début juin. Les présidents du Niger, du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Ghana ont reçu d'abord le pouvoir malien en place, puis le M5, le mouvement de contestation qui demande la démission du régime actuel. Une journée de négociation qui n'a pas fait bouger les lignes pour le moment. Explication de notre correspondante à Dakar, Théa Olivier.
Dans le hall luxueux de l'hôtel Sheraton de Bamako, l'imam dit qu'au leader de la contestation malienne est sorti insatisfait de sa réunion hier soir avec les 5 chefs d'État africains. Rien n'a bougé, a-t-il déclaré. L'homme religieux rigoriste est une figure du M5, mouvement hétéroclite d'opposition qui demande la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, au pouvoir depuis 2013. Le départ du Premier ministre fait aussi partie des revendications. Insécurité, corruption, pauvreté, les raisons sont multiples. Pourtant, le départ du président Ibeka reste une ligne rouge, rappellent les principaux chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, après avoir rencontré les deux parties dans la journée de jeudi. Mamadou Issoufou, président du Niger et président en exercice de la CEDEAO, a alors annoncé la tenue par visioconférence d'un sommet extraordinaire de l'Afrique de l'Ouest lundi prochain. Des mesures fortes pour accompagner le Mali seront prises lors de ce rendez-vous, a précisé le chef d'État nigérien.
Théa Olivier.
France Culture, 7h06, Ilan Malka, entre la Chine et les États-Unis, l'heure n'est pas exactement à la réconciliation.
Effectivement, hier, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a appelé le monde libre à, je cite, triompher face à la nouvelle tyrannie incarnée selon lui par la Chine communiste. Il décrit comme une plaque tournante de l'espionnage le consulat chinois à Houston qui a été fermé. Le discours prononcé depuis la bibliothèque présidentielle Richard Nixon à Yorba Linda en Californie avait un ton particulièrement virulent, les précisions de notre correspondant Loïc Loury.
Richard Nixon avait peur d'avoir créé un Frankenstein, dit Mike Pompeo. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La Chine, décrite par le secrétaire d'État américain, est autoritaire, agressive, sans compter son rôle dans la propagation du Covid-19. Aujourd'hui, nous continuons tous à porter des masques et observons le bilan humain grossir parce que le Parti communiste chinois n'a pas tenu ses promesses. Et chaque matin, les gros titres parlent de la répression à Hong Kong ou dans le Xinjiang. Un discours aux accents de guerre froide dont les principales cibles sont le Parti communiste chinois et son secrétaire général dont la fonction présidentielle n'est pas même évoquée. Le secrétaire général Xi Jinping croit fermement en une idéologie totalitaire en faillite. Mike Pompeo appelle donc les nations libres, comme il les appelle, à passer à l'acte face à ce qu'il présente comme un danger et une menace. Si nous plions le genou maintenant, les enfants de nos enfants pourraient être à la merci du Parti communiste chinois, dont les actions sont le principal défi du monde libre. Un comble pour Washington et l'administration Trump, peu encline au multilatéralisme, un nouveau pas, surtout dans le bras de fer entre les deux pays.
Et on apprend ce matin également que la Chine a ordonné la fermeture du consulat des États-Unis dans la grande ville de Chengdu, qui se trouve dans le sud-ouest du pays. Ceci donc 3 jours après la décision de Washington de fermer le consulat de Chine à Houston. Cette décision constitue, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, je cite, une réponse légitime est nécessaire aux mesures déraisonnables des États-Unis. Fin de citation. La Chine, nous continuons à en parler avec vous, Chloé. Tout à l'heure, ce sera le sujet dès 7h40 que vous aborderez avec vos invités. Au Proche-Orient, nouveau sujet de discorde entre Israéliens et Palestiniens. Il s'agit d'un vestige d'une église byzantine du VIe siècle, un baptistère octogonal connu des archéologues de la région, qui se trouvait en Cisjordanie. Alors dans la nuit de dimanche à lundi, des militaires israéliens sont venus pour le prendre. Ils estiment être dans leur droit à récupérer ce bien qui avait été volé il y a 20 ans. Mais côté palestinien, on dénonce une appropriation culturelle. Explication sur place de notre correspondante Alice Froussard.
C'est un vestige du VIe siècle, une pièce byzantine déjà volée en 2000 par des trafiquants d'archéologie en Cisjordanie, puis retrouvée 2 ans après par les Palestiniens du village de Toukou, explique Jacques, dont la famille vit dans le village.
Ensuite, ils l'ont mis près de la municipalité pour que plus personne ne la vole, un endroit où il y a beaucoup de maisons, jusqu'à ce que les archéologues de l'autorité palestinienne décident de ce qu'ils veulent en faire.
Mais ce lundi, l'armée israélienne est venue « dérober » entre guillemets le fameux baptistère. Selon le COGAT, l'administration civile israélienne dans les territoires palestiniens, il n'y a rien de politique. Ce baptistère était introuvable depuis 20 ans. L'ordre a été donné de le récupérer dès qu'il a été retrouvé, et ce grâce à des technologies avancées, nous affirme-t-on. L'argument tient peu. Des touristes venaient apprécier cette pièce emmenée par des guides locaux. Pour Anan Ashraoui, du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, c'est de l'appropriation culturelle. Frère Jean-Michel de Tarragon, de l'École biblique de Jérusalem.
Une puissance occupante a le devoir de maintenir en état. En droit strict, les Israéliens se mettent pas complètement en porte-à-faux en récupérant un objet qui a été dérobé. C'est différent juridiquement s'ils le mettent dans la colonie ou s'ils le mettent dans la ruine comme telle. Donc oui. C'est un peu ça que nous on attend.
Pour le moment, le fameux baptistère est toujours dans l'entrepôt archéologique de l'armée israélienne.
Il fait globalement beau aujourd'hui, quelques petits risques d'averses quand même au nord du pays. Côté température, c'est compris ce matin entre 17 dans le Finistère et 31 dans le Var. 7h10 sur France Culture, vous retrouvez Chloé Cambrelin pour la suite des matins.
Merci Lan Malka.